Nous avons parlé de la Palestine la semaine dernière. Et pour essayer de mieux comprendre la situation actuelle, nous avons fait un bref rappel des principales dates d'évolution dans cette idée et cette réalisation de créer en Palestine un foyer national juif. De cette idée de foyer national naîtra l'idée d'un État indépendant.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Nous en étions parvenus, dans cette évocation historique, à la guerre d'indépendance qui suit donc la résolution de l'ONU adoptée le 29 novembre 1947, créant deux États, un juif et un arabe. Cette solution des deux États excluait la ville de Jérusalem, dont le statut prévu était celui de zone internationale. La guerre de l'indépendance, qui éclate donc dès le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël en 1948, va opposer l'État d'Israël, tout jeune bébé, à des armées composées de Libanais, de Syriens, d'Irakiens, d'Égyptiens et de Transjordaniens. Au cours de cette année 1948, en juillet et jusqu'au mois d'octobre, Israël va conquérir la plus grande partie de la Palestine, hormis la Cisjordanie. À la fin de l'année, on estime qu'entre 700 000 et 730 000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leurs terres et de leurs maisons. Cet exode est à la fois intérieur, ils vont vers la bande de Gaza ou en Cisjordanie, mais il est aussi extérieur, vers la Syrie, le Liban et la Jordanie. À la fin de la guerre, donc à la fin de l'année 1948, plus de la moitié des Palestiniens sont des réfugiés. De plus, le 24 janvier 1949, la Transjordanie annexe la Cisjordanie pour devenir le royaume de Jordanie. La Palestine, qui avait obtenu une existence juridique à partir d'un mandat de la Société des Nations, cesse toute existence légale. Elle est partagée entre Israël, 77%, la Jordanie, 20%, et l'Égypte, 2%. Un peu moins de 20 ans plus tard, en 1967, va éclater la guerre des six jours. Elle va changer totalement la donne géopolitique du Proche-Orient. Israël conquiert Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Israël prend aussi une partie du Golan syrien et le Sinaï égyptien. En 1970, Yasser Arafat appelle au renversement de la monarchie hachémite qui règne donc sur la Jordanie. Le roi Hussein, qui est au pouvoir, ne se laisse pas faire et il va faire massacrer par dizaines de milliers les Palestiniens réfugiés en Jordanie. Yasser Arafat est obligé de quitter le pays et il se réfugie au Liban. Cet épisode dramatique dans l'histoire du peuple palestinien montre aussi la complexité de la situation des Palestiniens, qui ne sont pas seulement menacés par la création d'Israël, mais aussi par certains pays arabes. En 1973, Israël est attaqué par surprise par la Syrie et l'Égypte. Pourquoi ? Parce que, au cours de la guerre des six jours, Israël a pris le Sinaï à l'Égypte et le plateau du Golan à la Syrie. Ces deux pays veulent donc, au minimum, récupérer leur territoire. Et ils attaquent Israël à la fin de la fête de Kippour, alors que tout juif pratiquant respecte pendant cette période un jeûne de 8 jours. Dans un premier temps, les Israéliens n'ont pas le dessus, ils ont été pris par surprise, désorganisés. Mais au fil des journées, ils reprennent la main. L'affrontement s'achève le 25 octobre avec un cessez-le-feu suivi au mois de novembre par un accord de désengagement entre les belligérants. En 1988, Yasser Arafat, qui a pris le contrôle de l'autorité palestinienne, prononce à Alger une déclaration d'indépendance de l'État de Palestine et il se fait élire président de l'État par le Conseil national palestinien. En janvier 2006, alors que Israël s'est retiré de l'occupation de la bande de Gaza et malgré les efforts de paix de Mahmoud Abbas, qui est devenu président de l'autorité palestinienne, des élections législatives sont organisées pour les Palestiniens. Le peuple palestinien élit massivement le Hamas, parti islamiste, qui ne reconnaît pas Israël et appelle même à sa destruction. Le Hamas obtient 74 des 132 sièges au Parlement palestinien. Il entraîne la démission du Premier ministre Ahmed Korey. Après avoir retracé très rapidement et succinctement le déroulement de l'histoire en Palestine, nous avons maintenant des éléments qui nous permettent d'approcher la situation, j'allais dire de la comprendre, non, mais de l'approcher peut-être avec un peu plus d'acuité. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'affrontement se fait entre principalement le Hamas, qui est très présent dans la bande de Gaza, et Israël. Le Hamas a été élu, certes, par le peuple palestinien au cours d'élections, mais qui ont eu lieu en 2006. Et il mène toujours la même politique, à savoir le refus de l'existence de l'État d'Israël et sa destruction, et qui aujourd'hui dirige la bande de Gaza comme une véritable dictature. Car tous les Gazaouis ne sont pas sympathisants du Hamas, loin de là. Que dire des autres Palestiniens, ceux d'Hébron, ceux de Ramallah, ceux de Bethléem? Ils ne sont pas non plus, loin de là, favorables au Hamas. Nous sommes donc en face d'un mouvement minoritaire, mais qui règne par la terreur. Et identifier le Hamas avec le peuple palestinien est une grave erreur qui ne permettra aucune avancée vers la paix dans l'avenir. En face, nous avons un gouvernement israélien de droite qui même dirige grâce à une coalition avec l'extrême droite. Mais tous les Israéliens ne sont pas derrière Benjamin Netanyahou et à son refus de mettre en place un État palestinien indépendant. Et ce conflit, il faut aussi avoir conscience qu'il dépasse ce simple territoire du Proche-Orient. C'est presque un conflit de civilisation. Nous pourrions dire, d'une certaine manière, que la guerre en Palestine est une guerre entre deux mondes. Avant de parler du plan de paix de Trump et peut-être de ses chances de réussite, il y a deux questions que je n'arrive pas à résoudre. Elles concernent toutes deux le massacre du 7 octobre 2023. Ma première question est la suivante. Comment le Hamas a-t-il pu penser qu'après une telle opération, Israël ne réagirait pas de la plus violente des manières? C'est impossible de penser qu'Israël n'allait pas réagir. Donc, le Hamas a-t-il fait cette opération pour provoquer justement une réaction énorme d'Israël qui pourrait par la suite desservir l'image de l'État hébreu au détriment de milliers de Palestiniens qui allaient payer le prix fort de cette réaction? Mais apparemment, ce n'est pas trop le souci du Hamas quand on pense qu'il construit ses QG sous les hôpitaux ou sous les écoles. Si telle était la stratégie du Hamas, nous pourrions dire qu'elle a réussi. Car aujourd'hui, l'image d'Israël dans le monde est plus qu'écornée. Deuxième question. Comment se fait-il que les services de renseignement israéliens n'ont pas détecté cette attaque? alors qu'ils sont les meilleurs, les plus performants du monde? Y a-t-il eu seulement des négligences, des aveuglements, des fautes professionnelles graves? Ou bien, et j'ose à peine y penser, a-t-on fermé volontairement les yeux pour avoir ensuite une bonne raison d'écraser définitivement le ramasse? Je reste avec ces deux questions et je pense que peut-être l'histoire, dans quelques dizaines d'années, nous donnera la vérité. Venons-en maintenant au plan Trump, au plan de paix, le quantième plan de paix. A-t-il des chances de réussir? Il a certaines chances de réussir. Pourquoi? Parce que le Hamas a quand même été très affaibli, parce que beaucoup de pays adhèrent à ce plan, y compris des pays arabes, et donc le Hamas est isolé. Mais il a aussi des chances d'échouer. Pour que ce plan de paix réussisse, il faudrait qu'il soit négocié avec les Palestiniens et non pas le Hamas. Les Palestiniens d'Hébron, les Palestiniens de Bethléem, et parmi eux, il y a aussi même des chrétiens. Les chrétiens palestiniens devraient avoir une place dans ces négociations et pourraient être, au milieu de ce déferlement de violence, peut-être des instruments de paix. Du côté israélien, il serait peut-être bon, lorsque ce plan sera un petit peu plus précis, de demander son avis au peuple à travers un référendum, par exemple, pour que ce soit vraiment une paix des peuples et non pas une paix de dirigeants politiques représentant plus ou moins, et plutôt moins que plus, leur peuple respectif.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.